I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais. 20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix, et aujourd'hui, je te présente Chloé. Ça fait tout juste un an qu'elle est revenue de son année en Australie. Année décisive pour elle, puisqu'elle y rencontre son amoureux, met des mots sur sa bisexualité, et à son retour, sa relation fusionnelle avec sa mère s'en retrouve changée. Dans ce 20 ans d'âge, Chloé aborde des sujets difficiles liés à son adolescence. Puberté précoce, harcèlement, mutilation et troubles du comportement alimentaire. Mais elle y apporte beaucoup de lumière aussi, en montrant qu'on peut s'en sortir. À la fin de notre interview, elle m'a confié qu'elle aurait aimé entendre un témoignage comme le sien, à l'époque où elle pensait ne jamais parvenir à franchir tous ses obstacles. Je te laisse donc en compagnie de Chloé, et j'espère que son épisode te transmettra toute la force que j'ai décelée en elle.
Je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 21 ans et je suis en troisième année à Sciences Po Grenoble et j'ai bientôt passé en master à Sciences Po Paris.
Ok, donc t'as eu, enfin là c'est bientôt ton anniversaire.
Voilà, c'est bientôt,
bientôt
mon anniversaire.
T'es 21 ans. Comment t'appréhendais tes 20 ans? Est-ce que c'est un truc que t'attendais?
Pas tant que ça, je dirais que j'attachais beaucoup plus d'importance à mes 18 ans, parce que quand on habite à la campagne, c'est plus significatif, parce que ça veut dire le permis, ça veut dire la liberté, ça veut dire faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire avant. Et mes 20 ans, je les appréhendais plus que je les attendais,
okay.
Dans le sens où c'était mon année de retour d'échange à l'étranger, et j'avais un peu peur de comment ça allait se passer, et au final... Il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient attendues et d'autres pas trop.
Ok. Et du coup, tu étais en Australie, c'est ça?
Voilà, j'étais en Australie.
Et tu as passé un an là-bas?
Ouais.
Et c'était dans le cadre de tes études ou pas?
Ouais.
Du tout?
En fait, à Sciences Po Grenoble, on part tous en deuxième année. Et moi, j'ai choisi l'Australie, j'ai eu ce vœu, donc j'étais super contente. Et donc, c'était à Perth, donc sur la côte ouest, à 14 000 km de chez moi. Donc,
wow.
C'est assez compliqué de prendre cette décision-là. Tu te dis, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Et pendant le vol, tu as le temps d'y réfléchir. Et tu as le temps de te dire, merde, je crois que en tout, j'avais 22 heures de trajet, quoi, avec un arrêt en Thaïlande, en plein milieu de la nuit, un peu mystique, quoi.
Ouais.
Donc, j'ai passé un an là-bas. C'était une super année, mais j'avais peur de rentrer.
Pourquoi tu avais peur de rentrer? Est-ce que tu t'étais... trop acclimatée, tu voulais pas rentrer ou est-ce que...
J'avais envie de rentrer dans le sens où les gens que j'aime me manquaient. Ma famille, dont je suis assez proche, me manque. Au bout d'un an, c'est normal, quoi. Mais j'avais peur que personne me reconnaisse. Parce que tu passes un an dans une bulle. C'est une bulle à la fois au niveau de l'espace et du temps, parce que le temps passe pas pareil. L'espace a une autre valeur quand t'es en échange. J'ai fait beaucoup de voyages, donc j'ai beaucoup bougé. Et t'arrives chez toi, tu reprends tes habitudes, tu redors dans ton lit, il y a ton chat qui revient sur ton lit, et tu te dis, merde, c'est déjà terminé. Et j'avais peur de ça.
La fin de l'aventure, en fait.
La fin de l'aventure, et de devoir reprendre toutes les habitudes que j'avais laissées, et qui finalement me manquaient pas tant que ça.
Oui, c'était plus les gens qui te manquaient, et moins ton quotidien,
voilà,
en fait.
Voilà, c'est ça.
Et comment ça s'est passé à l'étranger, et quel contact que t'as gardé justement avec ta famille, avec tes potes qui était en France?
Alors, avec ma famille, je suis très très proche de ma maman. À tel point qu'on a programmé un voyage toutes les deux en plein milieu de mon échange. On a fait deux mois toutes
voir.
Les deux, voilà.
Ah ouais, quand même. Ouais. Trop bien.
Donc, je suis assez proche de ma famille. Et puis, mes amis, on avait une conversation avec laquelle on essayait de garder contact. Parce que forcément, quand t'es à 7 heures de décalage horaire, c'est super dur.
C'est super difficile.
Donc ouais, j'avais un contact très très fort avec les gens qui étaient en France, ce qui fait que je ressentais le manque, mais pas tant que ça finalement, parce que je leur parlais tous les jours.
Mmh. Et t'as quel rapport justement aux réseaux sociaux qui nous aident à rester vachement en contact aujourd'hui? T'as quel rapport à ça? Est-ce que t'es quelqu'un qui publie énormément, qui tient les gens au courant ou pas du tout?
Je suis assez réseaux sociaux, hein, on va le dire. J'ai beaucoup utilisé Instagram. Il y a des gens qui m'ont unfollow parce que ça les énervait de voir que j'avais 4 mois de vacances d'été au milieu de mon échange.
Oui,
j'ai perdu des followers, j'en ai gagné d'autres. Mais ouais, non, je suis assez réseaux sociaux, surtout cette année-là, surtout Instagram, parce que forcément l'Australie, c'est très Instagrammable.
J'imagine.
Ça l'est beaucoup.
J'imagine. Et du coup, quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps déjà que t'es rentrée?
Là, ça fait un an tout pile.
Ça fait un an.
Ça fait un an tout pile, ouais. Et ouais, quand je rentre, ma famille, ma mère me dit, ton père, donc, qui bosse à Genève, pourra pas venir. Et après, elle me dit, moi, je suis coincée dans les bouchons, je suis en retard. Et je me dis, merde, je vais me retrouver toute seule à la gare de Lyon, alors que je rentre de un an et que j'ai vu personne, quoi. Et en fait, c'est mes 3 meilleures copines qui m'attendent sur le quai, qui m'emmènent dehors et qui me disent, désolée, ta mère, elle va plus venir. Et en fait, j'arrive dans la cour de la gare, on va dire. Et là, tout le monde me saute dessus et j'avais tous mes copains. Mon père qui avait fait le déplacement. Tout le monde qui était là. Et il y a une vidéo de moi qui chiale forcément parce que je pleure beaucoup.
Bah oui, tu m'étonnes.
Et ouais, j'étais super contente de voir tout le monde et de voir que les gens avaient fait ce déplacement pour certains qui étaient même pas à Lyon sur place au moment où je rentrais. C'était un super moment, quoi.
Ouais, j'imagine. Mm. Mais c'est toujours bizarre ces moments. Enfin, ouais. Tu sais, quand tu rentres, t'as une sorte de super enthousiasme autour de toi et tout. Et puis tout d'un coup, paf, tu retournes dans la routine. La routine, quoi, ça y est.
On a mangé ensemble tous. La soirée, on a tous mangé ensemble. Et puis après, je suis rentrée chez moi en voiture. Et là, j'ai revu mes grands-parents parce qu'ils habitent à côté de chez moi. Et je me suis dit, waouh, c'est fini. Là, ce soir, tu dors dans ton lit. Ça fait bizarre.
Ouais.
Ça fait trop bizarre.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là depuis un an? Qu'est-ce qui a... Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans tes rapports aux autres?
Au tout début, c'était assez compliqué, assez conflictuel avec ma famille et surtout ma mère. Parce que comme on est très fusionnel, on se dit beaucoup les choses. Et en fait, elle m'a trouvée changée. Et moi, c'était exactement la peur que j'avais. J'avais peur que les gens ne me reconnaissent pas. J'avais peur que mes potes, qui étaient eux restés toute l'année, me disent « Mais putain, mais t'as changé en fait. » Et oui, j'ai changé. C'est sûr, j'ai changé.
Et comment t'as changé? Comment tu sentais que t'avais changé? Parce que si t'en avais peur, ça veut dire que tu savais que t'avais changé.
Je pense que quand on a eu une expérience comme ça, on a envie d'en parler. Et du coup, j'avais peur de rendre les autres jaloux. Mmh. Parce que forcément, toi, t'es resté chez toi et tu t'es peut-être fait chier à des moments, alors que moi, j'ai passé un an comme ça, quoi. Incroyable. Et puis, j'ai changé. J'étais plus exigeante envers les autres parce que les gens que j'ai côtoyés toute l'année étaient tellement bienveillants, tellement cool, tellement conciliants que derrière, si on me faisait chier, en fait, ça se passait mal, quoi.
Ouais. Du coup, t'as changé sur
ouais,
ce point-là.
Sur mon rapport aux autres, ouais, je pense.
Un peu plus exigeante.
Un peu plus exigeante, tout en gardant... Enfin, tout en m'ouvrant plus, quoi. Tout en me disant... les gens, ils sont différents et c'est trop bien parce qu'il y a du bon dans chacun. Mais du coup, il y a certaines personnes avec qui c'est plus conflictuel qu'avant.
Donc, c'était de l'exigence envers la façon dont te traitaient les gens, par exemple. Tu vas moins laisser les gens te marcher dessus ou...
C'est okay. Un peu ça, ouais.
T'as pris un peu de caractère, ouais. Quoi. Et du coup, ta mère a mal vécu ça?
Ma mère a mal vécu ça parce que je pense qu'elle a mal vécu aussi le fait de me voir avoir pris autant d'indépendance. Parce que même si j'ai pris mon indépendance petit à petit depuis le lycée, parce que je suis partie au lycée en internat, puis après je suis partie à Grenoble, donc c'est pas très loin de Lyon, mais c'est quand même une autre ville. Et du coup... là, c'était vraiment l'indépendance totale, quoi. C'était, en fait, j'ai pas vraiment besoin de vous, parce que regardez, j'ai passé un an, il m'est rien arrivé. Et je pense que ça lui a fait un petit coup au moral de se dire, c'est mon bébé qui s'envole vraiment, quoi. Mm.
Et du coup, elle t'en a parlé et ça t'a fait de la peine, ça, de la voir dans cet état-là? Ou est-ce que t'étais plutôt heureuse de te dire, bah voilà, maintenant, je suis un peu plus indépendante?
Un peu des deux. J'étais très contente d'être devenue aussi indépendante que je l'étais en rentrant, mais triste de voir ma maman comme ça. Et on a parlé, et la discussion, ça aide toujours. Et je pense qu'on a compris des choses l'une de l'autre. Moi, j'ai compris qu'elle, elle s'attendait à ce que je sois... aussi fusionnelle qu'avant. En fait, on l'est autant, mais d'une manière différente. Pour le coup, c'est plus vraiment ma maman, c'est une meilleure copine. Mmh. Et c'est ça qui est cool, c'est que là, maintenant, on se chambre, on s'envoie chier. Et en fait, ça n'empêche pas qu'on se respecte beaucoup et qu'on s'aime beaucoup.
Bien sûr.
Voilà.
Et t'es fille unique ou t'as des frères?
J'ai un petit frère de 17 ans.
Ok. Et comment ça se passe avec lui, du coup?
C'est assez conflictuel. On a 4 ans d'écart et on n'a jamais vraiment grandi ensemble, dans le sens où moi j'étais l'aînée du coup, et pour mon âge on m'a toujours dit mais Chloé t'es grande pour ton âge. Et mon petit frère c'était un garçon, il avait 4 ans de moins et on n'avait pas beaucoup de jeux en commun et on n'avait pas beaucoup de choses qui nous rapprochaient. Et le rapprochement s'est effectué petit à petit. Au fur et à mesure que j'ai pris mon indépendance de la maison. Je suis partie à l'internat, je rentrais les week-ends, c'était toujours conflictuel, mais c'était moins tendu. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir une relation plus saine. Mais il y a toujours ce qui me chagrine dans notre relation, c'est que j'ai toujours pris une place de seconde maman pour lui. J'ai toujours voulu qu'il soit le plus parfait possible parce que je pense que c'est parce que je l'aime et que j'ai envie que la vie soit douce avec lui. Et du coup, j'essaie de l'aiguiller en lui disant « Fais pas comme ça, parce que sinon tu vas te prendre ça sur la tronche. Et puis fais plutôt comme ça, parce que tu verras, ça sera mieux. » Et lui, qui est en ce moment en pleine crise d'ado, me dit « Lâche-moi, je ne veux pas de tes conseils. » Et bon, du coup, en tant que grande sœur, c'est toujours un peu compliqué de se positionner. Est-ce qu'on est copains? Non, on n'est pas copains, on est frères et sœurs, on a été élevés ensemble. Mais du coup...
Est-ce que la question de... Parce que j'ai l'impression, quand tu pars de la maison, t'as toujours cette question de te dire, bah, en fait, est-ce que mes frères et sœurs vont rester mes frères et sœurs et que je vais les voir à Noël et que ce sera mes frères et sœurs en réunion de famille, quoi qu'il arrive? Ou est-ce que ça va être en plus mes potes? Est-ce que cette question-là
Je pense que j'aimerais beaucoup que mon frère soit aussi mon pote, parce que j'ai une relation très forte avec ma maman et que j'aimerais qu'on ait tous cette relation-là. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas possible avec tout le monde et que le lien que j'ai avec ma mère est très particulier.
Et ça se manifeste comment, justement, ce lien avec ta mère?
Ça se manifeste... disons que, par exemple, quand on est partis en voyage toutes les deux, il n'y a aucun moment où ça s'est mal passé, alors que un voyage mère-fille, ça peut très très mal tourner au bout de 15 jours, quoi.
C'est clair.
Et là, ça s'est très bien passé. Et puis, on s'envoie des messages. Enfin, ma mère, c'est la première personne que j'ai dans mes contacts. Dès qu'il m'arrive quelque chose, je lui raconte. Je lui fais des messages vocaux, je lui raconte ma vie, elle me raconte sa vie. On a des amis en commun. Ce qui fait qu'en fait, quand on se voit avec ces amis-là, ben, y a elle, sa copine et moi. Et du coup, c'est comme si on était copines, quoi. Ce voyage-là, il nous a encore plus soudés, mais il nous a aussi montré que on était capable de se dire les choses. Et je lui ai dit des choses et voilà, quoi.
Bah, c'est bien.
Ouais, c'est bien, ouais.
Et ton papa, du coup, est-ce qu'il vit encore avec ta maman?
Alors, ils sont mariés, mais mon père travaille à Genève et du coup, il a pris un appart et il rentre le week-end. Mais du coup, toute la semaine, je ne suis pas avec lui. Et mon papa, c'est une relation plus particulière parce qu'il est italien du nord et dans ces montagnes, là-haut, on ne montre pas ses sentiments. Et mon père, je l'ai très rarement entendu me dire « je t'aime », très rarement entendu me dire qu'il était fier de moi. À tel point qu'à un moment dans mon adolescence où j'étais vraiment pas bien, je lui dis « Papa, je crois que tu m'aimes pas, en fait. » Et ça a été très, très dur pour lui, parce que lui avait l'impression de faire assez. Et moi, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas, quoi. C'était pas possible qu'il me le prouve pas.
Oui, parce que vous avez une relation tellement différente avec ta mère,
voilà.
Que du coup...
En contraste, ça me donnait juste l'impression que je n'étais pas aimée par mon père. Alors que pourtant, si. Mais voilà.
Ok. Et alors, du coup, on a parlé pas mal de ta famille, de tes proches. C'était quoi le changement envers toi-même? Est-ce que ton regard sur toi-même a changé de l'adolescence à maintenant? Est-ce que l'Australie a fait quelque chose en particulier sur ton rapport à toi-même aussi?
Sur mon rapport à moi-même, je pense que l'Australie n'a pas changé grand-chose parce que je m'étais construit une carapace bien avant, qui date du collège. Et je pense que mon rapport à moi-même a beaucoup évolué, surtout à travers ces expériences-là. Au collège, j'ai eu pas mal d'ennuis dû à du harcèlement. J'étais vraiment différente de tout le monde. J'ai eu pas mal de choses qui me sont arrivées les unes sur les autres. Et physiquement, j'étais vraiment pas pareille que tout le monde.
C'est-à-dire
Alors, j'avais des bagues, mais tout le monde en avait. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai eu beaucoup de boutons très jeune parce que j'ai fait une puberté précoce. Okay. Et donc, j'avais un physique de petite femme. Donc, j'avais 11 ans, je faisais 1m55. J'avais des seins, j'avais des hanches. Et j'avais beaucoup de boutons parce que l'adolescence, elle a commencé très très vite pour moi. Et ensuite, en sixième, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour une connerie comme une angine ou quelque chose comme ça. Et mon médecin m'a dit « Chloé, tu as une double scoliose », c'est-à-dire que ma colonne vertébrale fait un S. Elle m'a dit « Elle est évolutive ». Donc, ça veut dire que dans 6 mois, soit on t'a mis un corset, soit on t'opère, on te fait une incision du haut en bas de la colonne et on te met 2 plaques de métal dans le dos.
Ok.
Donc ça sonnait comme une question rhétorique, donc j'ai pris le corset.
Ouais.
Et le corset, c'était 23 heures sur 24 dans
23 heures sur 24
dans un corset en plastique
de
haut en bas, donc de mes aisselles jusqu'à la courbure de mon dos, le haut de mes fesses. Donc physiquement, quand j'allais au collège, j'étais pas comme tout le monde, du tout, du tout. Et je m'en suis pris plein la gueule, parce que j'étais différente, parce que calculette, parce que toc, 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 il y a quelqu'un dans ce corset? Ouais, il y a moi. Mmh. Et ma mère, quand elle me bordait la nuit, qu'elle venait éteindre la lumière dans ma chambre, en fait, elle pleurait après, parce que me voir comme ça, dans ce corset, avec ses boutons, avec tout ça, ça lui donnait envie de vomir, quoi. Parce que c'est tellement injuste. Il y en a, ils passent l'adolescence sans aucun problème et moi, j'ai eu que des obstacles. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé de passer à la vitesse au-dessus au niveau pour mes boutons. Et c'était la seule chose qui était plus ou moins changeable. Donc, on m'a mis sous Roaccutane à 13 ans.
Est-ce que tu peux rappeler juste ce que c'est le Roaccutane?
Donc Roaccutane, c'est disons la solution finale pour l'acné. C'est un traitement qui est très très lourd par voie orale et qui nécessite pour les jeunes filles de prendre la pilule. Parce que si jamais il y a grossesse sous Roaccutane, ça donne des aliens. Ça donne des bébés avec un front immense et des oreilles d'elfes. Et c'est surtout un médicament qui a tendance à provoquer des dépressions.
Okay.
Et j'avais tellement envie et besoin de ce traitement que j'ai poussé ma mère et la dermato pour qu'on m'y mette. Mais j'étais très jeune et du coup, je suis arrivée dans un état psychologique où j'étais très très faible, en détresse. Et en fait, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens qui se mutilaient et j'ai fait pareil. Et pendant 2 ans, je me suis mutilée. Ensuite, j'ai fait de la boulimie, j'ai fait de l'anorexie mentale. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Et je cachais au maximum.
Mais tu savais ce que c'était, en fait Parce que du coup, tu parles des réseaux sociaux. Est-ce que c'est par là que t'as appris
J'ai l'impression que si j'avais pas vu ça sur Twitter, je l'aurais pas fait.
Okay.
J'aurais peut-être pas eu l'idée de moi-même. Mais il fallait évacuer ce mal-être. Et j'ai trouvé que c'était peut-être la solution la plus faisable. Et du coup, je me suis endurcie parce que je voulais que personne rentre dans cette intimité-là. Ma meilleure amie, elle voyait, mais elle pouvait rien dire parce que je lui disais, si tu le dis à ma mère, je te tue, en fait. Enfin, je te tue pas, mais c'est pas possible, tu peux pas le dire à ma mère. Elle va m'envoyer chez un psy et j'ai pas envie. Il se passe, il y a un moment, en troisième, ma mère trouve du sang sur mon lit, elle me dit c'est quoi? Et elle voit mon poignet et elle me dit ok, ben, enfin là, là on va aller chez un psy parce que c'est pas possible. Et là encore une fois j'ai trouvé une manière de détourner ça, et en 2 séances c'était terminé parce que je lui avais dit mais ça va, tout va bien, tout va beaucoup mieux, ouais. Alors que c'était pas vrai. Et puis j'arrive au lycée et je me débarrasse de tous les gens qui m'embêtent depuis le collège.
Tu t'as changé de lycée en fait, c'était pas
en fait,
dans la continuité.
En fait, je suis partie dans mon lycée, dans un lycée qui n'était pas mon lycée de secteur, parce que je voulais faire une option qui n'était pas présente dans mon lycée de secteur, et ça m'arrangeait au max. Parce que du coup, je suis partie toute seule avec ma meilleure copine dans un lycée qui est à une trentaine de kilomètres de chez moi. Et où personne ne m'a suivie. Donc, j'avais le droit de commencer une nouvelle vie, d'être qui je voulais. Et comme j'étais débarrassée de l'acné et de mon corset et de mes bagues, j'étais une nouvelle personne. Mmh. Et du coup, ça s'est très, très bien passé au lycée et j'ai rencontré des gens super.
C'est au lycée, du coup, que tu t'es un peu développée et,
ouais.
Et que t'es... Enfin, pas développée, mais épanouie. Et que...
Ouais, je me suis... épanouie à fond. J'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis et sur qui je peux compter. Et je sais que c'est des gens qui me prennent comme je suis. Et c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu dès le début.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Et voilà, et les gens du collège, je n'ai plus aucune nouvelle.
Tant mieux.
Et c'est tant mieux.
Mais du coup, est-ce que l'anorexie, la boulimie, la mutilation se sont arrêtées au lycée?
Ouais. Ça s'est arrêté tout seul au fur et à mesure de mon année de troisième. Parce qu'en janvier, on m'enlève mes bagues. Donc je me disais, bon déjà, ça c'est bien. En février, on me dit, maintenant ton corset, tu as le droit de le porter uniquement la nuit. Donc c'est déjà bien aussi. Et puis, le traitement Roaccutane avait terminé de faire effet et j'avais une peau qui était très belle. Et il me restait juste ce problème avec mon corps, mon poids, parce que j'avais fini par le détester, ce corps. Et j'ai des restes hein, de l'anorexie, de ne pas se voir comme on est dans le miroir, d'avoir l'impression qu'on est beaucoup plus grosse. Sauf qu'en troisième, je faisais 10 kilos de moins qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis pas si grosse que ça, en fait. Mais du coup, tout s'est arrêté. Quand je suis arrivée en seconde, j'avais plus rien du tout. Et du coup, j'étais beaucoup plus disponible à me faire des nouvelles amitiés et à rencontrer des gens qui étaient bienveillants envers moi. Parce que là, cette fois-ci, j'étais prête à accepter que les gens pouvaient être bienveillants, cette fois-ci.
Donc, t'as vraiment repris confiance en toi.
Ouais.
Grâce à cet arrêt un peu aussi, bah, j'imagine que ton corset, tu le portais
oui,
plus.
Oui, voilà. C'est...
que voilà, ok. Et aujourd'hui, la confiance en soi, c'est...
Ça va mieux.
C'est top.
Pas toujours acquis. Il y a des fois où c'est compliqué parce que j'ai l'impression de retomber des fois dans certains travers où je passe 5 minutes devant le miroir à me dire « Ah, ça va pas. » Mais j'ai fait la paix avec la forme de mon corps. Je me suis dit que c'était pas bien grave si mes cuisses, elles se touchaient. Parce qu'en fait, c'est normal.
C'est clair.
Que c'est pas bien grave si j'ai un sein plus gros que l'autre et que j'ai des vergetures. Parce qu'au final, j'ai une silhouette assez harmonieuse, donc ça va mieux. Et tout ça, ça m'a aidé à construire ma confiance en moi qui maintenant est beaucoup plus forte qu'avant. Et je me suis construit une carapace qui permet aussi d'éviter certaines critiques. Enfin, en tout cas, elles ne m'atteignent plus autant qu'avant.
Ok. Et du coup, on va parler un petit peu de ton rapport avec le futur. Comment tu vois les prochaines années? Donc là, tu es à Sciences Po en ce moment.
Ouais.
Est-ce que tu vois à peu près se dessiner une carrière, une idée de métier, une envie?
Donc là, je rentre en master RH à Sciences Po Paris. Donc c'est déjà m'installer à Paris, c'est une grande chose.
Parce que t'as envie de t'installer
ouais,
à Paris?
Ouais, j'ai envie. Je sais que j'ai pas envie d'y vivre toute ma vie, mais je pense que mes années étudiantes, ça peut être sympa d'en vivre quelques-unes à Paris. Ensuite, j'ai envie de faire une année de césure parce que j'ai trop envie de repartir à l'étranger.
Ah, une fois que c'est fini.
Et
c'est fini,
voilà. Et que je sais que le Canada, ils sont super forts en RH et j'ai trop envie d'aller à Montréal ou à Toronto, à Ottawa pour voir ce qu'ils font là-bas. Et puis faire un stage. Et puis, une fois que j'aurai terminé mes études, ben, on verra bien. Je serai en alternance en dernière année de master, donc je pense que ensuite, si ça se passe pas trop mal, je pourrais peut-être débouler sur un poste. Et voilà, c'est vrai que c'est un avenir assez rangé qui m'attend, mais j'ai envie de voyager aussi et j'aimerais bien pouvoir prendre une année peut-être entre mes études et le début de ma vie professionnelle pour voyager, pour faire un gros voyage trop cool quoi.
Trop bien. Et du coup, tu parles d'une vie rangée. Qu'est-ce que c'est pour toi une vie rangée ?
Bah, c'est les ressources humaines, c'est assez classique quoi. C'est t'es en entreprise et c'est une fonction qui est assez classique, qui est commune à beaucoup de
boîtes.
De boîtes. Et donc ouais, ça peut être rangé beaucoup plus que pourrait être une vie de de reporter ou de diplomate, ce à quoi, disons, Sciences Po mène, plus classiquement. Mais je pense que ça me va aussi. Et que je saurais trouver dans ce quotidien un peu plus rangé des choses un peu plus fofolles, à droite, à gauche.
Tu veux faire de ta vie perso une aventure, voilà. Et du voyage.
C'est ça.
Et dans ta vie pro, plus peut-être te poser pour avoir une stabilité financière, pour te permettre aussi de...
Parce que ça ne me fait pas peur, en fait. Il y a des gens à qui ça fait très peur de devoir se ranger et de devoir avoir une vie quotidienne assez monotone. Moi, je pense que ça ira.
Je pense
que ça ira parce que j'ai des proches, parce que j'ai mon copain et que j'ai des projets. Et je pense que ma vie perso peut être... agrémenté de plein de petites choses qui font que ma vie pro pourra être assez monotone, sans problème.
Et du coup, ton copain, vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Eh ben, mon copain, on est ensemble depuis le tout début de notre échange. On se connaît grâce à un événement sportif qui est commun à tous les Sciences Po. Lui, il est à Sciences Po Paris depuis sa première année. Et là-bas, on s'est vus, on s'est dit « Ah, tu vas à Perth aussi ?» Et une fois là-bas, ça nous a pris 3 semaines avant qu'on se mette ensemble. Et on est rentrés ensemble. Et depuis ma 3e année d'études, quand je suis rentrée, du coup, moi j'étais à Grenoble, lui il était à Paris. Donc c'était une relation à distance. Pas toujours facile. Mais maintenant je vais aller à Paris et ça va être plus facile.
Ok, donc là tu vas t'installer avec lui.
Voilà. Non, pas maintenant. Non. Pas du tout. Non, là, je vais prendre un appart toute seule parce que lui, il est en coloc avec son meilleur copain et moi, j'ai envie de vivre toute seule parce que cette année, j'étais en coloc et ça s'est tellement bien passé que j'ai pas envie de me mettre en coloc avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ouais, je vais me prendre un petit studio et puis on se verra quand on aura envie de se voir, un peu comme quand on était en Australie. Et c'est ça qui me manque. Ouais. C'est le fait de se dire, tu viens, on va manger une pizza. Bah ouais, grave. Parce que je suis à 5 minutes de chez toi, ça va, quoi. Alors qu'à Paris et Grenoble, c'était... alors tu viens de vendredi à dimanche. Merde, il n'y a pas de train. Ah, bon. Ouais. Bon, bah tu viens de vendredi à samedi, alors. Ah ouais, mais ça fait pas beaucoup. C'est toujours ça.
Ouais, c'est un peu un enfer, les relations.
Ouais, c'est très chiant.
Surtout quand t'as passé un an loin de tout le monde, ensemble. Quoi.
Oui, voilà, t'es dans une bulle, et après, la bulle éclate. Et en plus, t'es propulsé à, je sais pas combien c'est, Grenoble-Paris, mais ça fait plus que 5 kilomètres.
C'est clair. Et du coup, est-ce que c'est ta première histoire d'amour ou est-ce que t'en as eu d'autres avant ?
Non, c'est pas ma première histoire d'amour, mais c'est la première fois que j'ai l'impression d'être aimée autant. Et ça me fait du bien. Et c'est la première histoire d'amour qui est aussi longue et aussi belle de tous les points de vue. J'ai toujours eu tendance à avoir des histoires d'amour avec des gens qui... prenait pas forcément soin de moi. Et je pense que j'ai besoin aussi, plus que quelqu'un d'autre, de montrer, qu'on me montre qu'on m'aime. Et du coup, quand j'étais en couple avant, c'est moi qui me suis fait larguer beaucoup. Et beaucoup, c'est moi qui aimais plus. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui m'aime et qui me le prouve. Et même si c'est pas toujours facile parce qu'il est assez pudique, moi, je sais qu'il m'aime.
Oui, tu le vois.
Et ça se passe super bien.
Ok, trop trop bien. Et du coup, justement, comment t'appréhendais ces histoires d'amour qui peuvent être parfois difficiles, surtout au collège et au lycée, où tu me disais que t'avais une image de toi qui n'était pas exacte, fin, tu vois. Comment ça se passait à ce moment-là?
Au collège, j'ai eu aucune histoire d'amour. J'ai eu des crushs par-ci, par-là, en veux-tu, en voilà, et personne ne me trouvait jolie en retour, donc ça m'a un peu attaquée. Ce qui fait que je suis arrivée dans mes premières relations amoureuses avec un handicap qui est de ne pas avoir confiance en soi et d'avoir l'impression de ne pouvoir être désirable pour personne. Et du coup, je suis arrivée dans ces premières relations avec un passé qui ne m'a pas rendue totalement disponible pour des relations saines. Et je pense que je me suis moi-même dirigée vers des gens qui n'étaient pas très sains.
Oui. Oui.
Je cherchais des gens qui avaient des failles, je cherchais des gens qui avaient un passé sombre. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens qui m'ont pas fait du bien. Et voilà, et j'ai, donc, je suis bi, donc j'ai eu des histoires avec des filles. Et j'ai eu une histoire avec une fille qui m'a traînée très longtemps, qui a été assez difficile jusqu'à mon départ en Australie. Donc ça a duré. Enfin, on n'a jamais été ensemble, mais ça a duré longtemps. Et du coup, après, c'est difficile de refaire confiance. Parce que quand on te fait croire des choses, quand on te fait miroiter qu'on va être ensemble et que derrière, non. Quand pour la première fois, on est sincère avec toi et on te dit « Oh, je t'aime », tu dis « Ah bon ? Ouais. Vraiment ?»
C'est, ouais. Ouais. Et du coup, comment t'as annoncé, je sais pas si tu l'as annoncé à tes parents ou pas, que t'étais bi, comment ça t'est tombé dessus ou comment tu l'as toujours su ou...
Je crois que je l'ai pas toujours su, mais en regardant le passé avec le regard d'aujourd'hui, je me dis que bon, c'était pas si difficile à discerner. Quand j'étais gamine, à 8 ans, je disais à mes copines... Viens, on s'embrasse comme ça, la première fois quand on saura faire avec un garçon.
Oui.
Mais du coup, mes parents l'ont pas su... Mon père ne le sait toujours pas.
D'accord.
Parce que, toujours en rapport avec la façon dont il a été élevé, là-haut, dans les montagnes, dans le nord de l'Italie, c'est très catho et c'est surtout pas LGBT. Et du coup, fallait pas trop en parler. Et ma mère, je lui ai dit une fois, parce que je l'ai entendue s'offusquer face à des propos homophobes. Et je me suis dit, ben, si elle n'est pas de ce côté-là, elle est du mien. Donc je lui ai fait un mot et je lui ai écrit...
T'avais quel âge ?
J'étais en quatrième, je pense. Mmh. Donc en plein dans le moment où j'étais pas bien avec moi-même, je dis à ma mère que je suis bi. Et en fait, elle, à ce moment-là, elle n'était pas encore... disponible à entendre ça. Ça va bien quand c'est les enfants des autres, c'est plus difficile à entendre quand c'est ses propres enfants. Donc elle a eu des mots assez durs. Ça m'a pas vraiment aidée parce que elle m'a dit des choses qui venaient du cœur et qui étaient surtout des peurs d'une maman. C'est mais tu vas en chier toute ta vie parce que ça va. Les gens vont te faire du mal. En fait, c'est pas vraiment qu'elle n'aimait pas le fait que je sois bi, c'était qu'elle
avait peur des autres.
Elle avait peur des autres.
Et du coup, toi, ça t'a rendue encore plus peureuse, voilà. Des autres.
Surtout qu'à l'époque, je savais pas exactement si j'étais bi, si j'étais lesbienne, qu'est-ce que j'étais, est-ce qu'il fallait vraiment que je me mette une étiquette ou pas. J'avais eu une histoire avec un garçon, j'ai eu une histoire avec un garçon en seconde qui s'est très mal passé, ce qui fait qu'après, en réaction à ça, j'ai fini par me dire en fait j'aime pas les garçons du tout.
Ouais.
En fait c'était plus complexe que ça.
Ouais.
Mais pour l'annoncer c'était compliqué et ensuite je ne lui en ai pas parlé pendant un petit moment et après elle s'y est faite.
Okay.
Quand elle a vu en plus que je suis sortie avec mon copain et qu'on est toujours ensemble, en fait elle a compris que c'était pas ma fille aime les filles, c'est ma fille aime les filles et les garçons. En ce moment, elle est avec un garçon. Elle est heureuse. Et du coup, c'est la seule de ma famille qui est au courant.
D'accord, ok. Ouais. Donc tu l'as pas du tout dit même à ton frère?
Non, mon frère, non. Bah, en fait, il était jeune quand je l'ai découvert. Et j'avais pas trop envie de l'embêter avec ça, parce que je me suis dit que je voulais qu'il se construise tout seul déjà. Et qu'il... Parce que je sais qu'il est beaucoup dans le mimétisme avec moi. Mmh. Et je voulais pas qu'il calque des choses sur son propre vécu. Et je voulais que... Il sache ça peut-être plus tard, si jamais c'est opportun. Et sinon, ben, c'est mon petit secret.
Ok. Et comment tu vis, du coup, cette bisexualité? Est-ce que t'as l'impression que ça évolue? Comment t'as réussi, du coup, à te définir en tant que bisexuel? Parce que tu disais que c'était un petit peu difficile au début, quoi. Comment tu recherches?
C'est un process qui a pris du temps et qui, je pense, s'est ouvert à moi pendant mon année d'échange, justement. J'ai pris un cours de... Parce que là-bas, j'avais le choix de tous les cours. Je pouvais prendre tous les cours. Et j'ai pris un cours qui s'appelle Gender in Australia. Et du coup, c'était que sur le genre, les discriminations. Plus largement, c'était ouvert à, aux aborigènes d'Australie, l'intersectionnalité, tout ça. Et en fait... je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler sur la bisexualité parce que c'est quelque chose qui est très peu visible. Que ce soit dans la fiction, que ce soit dans la vie de tous les jours, on oui, dit des clair. Gens, soit il est gay, soit il est homo, soit il est homo, soit il est hétéro, mais c'est pas vraiment imaginable de voir quelqu'un de bi à l'écran ou tout ça. Et du coup, j'ai travaillé sur le manque de visibilité de la bisexualité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de vrai et que je pouvais me définir comme ça. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça.
C'est en l'étudiant que ouais. tu t'es rendu compte ouais, que je pense ça que te c'est correspondait ça. Ouais. Putain, c'est ouf. C'est trop, trop bien.
Ouais, c'est cool.
Et ton copain, il le sait?
Ouais, il le sait depuis le tout début. Je lui ai dit, écoute, la dernière fois que j'ai eu des relations sexuelles, c'était avec une fille. Donc, il faut que je te le dise. Je suis... probablement bi. À l'époque, je lui ai dit probablement. Et voilà. Et il l'accepte et ça lui fait ni chaud ni froid.
Ok.
Il est content et il s'en fiche.
Trop bien. Bah, trop trop cool.
Ouais.
Et du coup, bah, pour finir cette interview, je te pose la question que je pose à tous les invités de 20 ans d'âge. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais si tu pouvais l'avoir devant toi?
Je pense que je lui dirais « ça va passer ». Tu verras, il y a des gens super qui t'attendent et tu vas te débarrasser de tout ce qui t'ennuie. Ça va aller. Voilà.
Trop bien. Merci, j'espère qu'elle t'entend.
Bah, merci, j'espère aussi.
Merci beaucoup Chloé d'avoir participé
merci
à l'entendage.
Merci beaucoup à toi.
C'était vraiment top.
Merci à toi auditrice, auditeur d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». À bientôt dans 20 ans d'âge.